courant, il est très ouvert. C'est l'ouverture, c'est l'amour, c'est le partage. Aucune distinction de foi, aucune distinction de race, aucune distinction d'origine. Le soufisme survole tous ces clichés-là. Et c'est ça qui fait cette force de ce courant.
Le visible et l'invisible.
France, Islam, questions croisées. Abdennour Bidar.
Bonjour à tous. J'ai beaucoup insisté tout au long de ces émissions sur la nécessité que la société française fasse évoluer son regard sur ses musulmans. Ou plus précisément, sur tous ses membres qui sont d'origine musulmane, mais qui ont un rapport avec la religion islamique très différent souvent selon les individus. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Évitons surtout l'erreur majeure de prendre tout musulman pour un radical en puissance. Car la quasi-totalité des musulmans condamne cette radicalité religieuse, que ce soit celle du voile intégral ou bien pire encore celle du terrorisme et de toute guerre soi-disant sainte qui serait faite au nom de l'islam. C'est à ce discernement que récemment Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire national de la laïcité, appelait dans le journal Libération du 15 juin 2014. Je le cite parce qu'il est très important que nous tous, ici en France, entendions ce type de message. « Ce n'est pas, disait-il, parce qu'une femme porte le foulard qu'elle est intégriste, radicale, anti-laïque ou anti-républicaine. Cet appel à ne pas tout mélanger, tout confondre, est aujourd'hui de salut public. » Mais la question est complexe. Parce que, comme le disait aussi Jean-Louis Bianco dans ce même entretien, on observe aujourd'hui en France, du côté de l'islam, un développement du communautarisme, ce sont ces mots. C'est-à-dire la tentation du repli sur soi et le retour vers ce que j'ai souvent appelé dans cette émission un traditionalisme ou un néo-traditionalisme, c'est-à-dire une régression de l'islam vers le pire du religieux. Le contrôle des femmes par les hommes ou par la tradition, par exemple, le harcèlement de plus en plus observé dans certains quartiers vis-à-vis des filles qui ne se voilent pas, et donc l'absence de liberté de conscience vis-à-vis de la loi religieuse. Par rapport à cette réapparition inquiétante d'une religion obscurantiste, j'emploie très souvent une image. Quand on me demande ce que je pense du terrorisme islamiste, je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière le terrorisme, il y a cet autre problème, plus massif et très inquiétant, la régression vers un islam du passé. Un passé d'ailleurs largement imaginaire. Un passé dans lequel les femmes sont soumises à des normes de vêtements et de comportements et dans lequel tout croyant considère qu'islam veut dire soumission à Dieu, soumission à une doctrine unique constituée de règles éternelles. Or, en 2008, j'ai publié un livre dont le titre était justement « L'islam sans soumission » pour démontrer que non, l'islam ne veut pas dire soumission mais libération, libération de la nature spirituelle de l'être humain. Hélas, cet enjeu passe inaperçu. Pourquoi ? Eh bien parce que nos médias passent tout leur temps à parler du terrorisme et donc à boucher complètement notre champ de vision de l'islam en se focalisant sur ce terrorisme, ce djihadisme, sur lesquels ces médias ne manquent pas d'experts. Ah, les experts de l'islamisme, comme ils sont nombreux. Mais combien sommes-nous, en revanche, pour alerter sur le fait qu'en réalité, le problème de fond ici en France, et celui des musulmans dans leur immense majorité qui ne sont évidemment pas des terroristes, mais qui se trouvent dramatiquement démunis parce qu'ils peinent à trouver d'autres modèles d'identification à l'islam que le modèle traditionnaliste qui fait actuellement un spectaculaire retour en force et vers lequel les musulmans risquent de se retourner en masse faute de mieux, c'est-à-dire faute d'une capacité de l'islam à se réinventer, à renouveler de fond en comble son modèle. Exemple, une musulmane se dit « Comment exprimer mon islam ?» Et faute d'avoir un modèle plus neuf, un modèle alternatif d'expression de son identité religieuse, elle revient vers le voile, qui est pourtant l'une des expressions les plus datées de cette islamité. Je viens de dire que le voile est l'une des expressions les plus datées de l'appartenance à l'islam. Aïe, 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 je sens que je vais me faire traiter d'islamophobe par tous ceux qui n'ont pas compris que le philosophe est celui qui ose poser certaines questions et provoquer le débat sur des sujets tabous. Le philosophe n'est pas un donneur de leçons, c'est un empêcheur de penser en rond. Je ne suis évidemment pas pour qu'on interdise aux femmes de porter un foulard dans la rue. Et à ce sujet, d'ailleurs, la société française doit s'interroger sur son degré de tolérance et d'ouverture d'esprit. Il n'est pas normal que ce foulard provoque, comme c'est devenu le cas, une telle allergie nationale. Mais en même temps, je crois nécessaire que les musulmans s'interrogent de façon critique, autocritique, sur tous leurs signes extérieurs d'islam. Sont-ils bien nécessaires, ces signes extérieurs, pour se sentir musulman ? La religion est-elle quelque chose d'extérieur ou d'intérieur ? N'est-elle pas avant tout un rapport intime à Dieu ? Et quand on veut manifester sa piété au dehors, de façon visible, est-il plus juste de le faire par un vêtement ou une barbe, ou bien, par les qualités morales que recommande toute religion ? La droiture, la sincérité, la générosité, la bienveillance, la solidarité, la fraternité, l'écoute, la disponibilité, la charité, etc. Je ne comprends pas que les musulmans ne se posent pas davantage ce type de questions. Cela n'aurait-il pas plus de valeur morale et sociale, que l'islam qui veut se rendre visible le fasse par l'éthique de ses fidèles ? Que dans la société française, les musulmans travaillent à acquérir l'image de l'homme de bien, la visibilité de l'homme ou de la femme remarquable pour ses vertus morales. Plutôt qu'un voile ou une barbe, plutôt que des prières de rue, même si, bon, n'exagérons rien, elles ne sont pas très nombreuses, plutôt que des signes extérieurs d'islam qui provoquent l'incompréhension ou le conflit. Pourquoi les musulmanes et les musulmans ne choisissent pas la visibilité du comportement exemplaire, autrement dit du modèle de noblesse du comportement, du modèle de beauté et de justice morale dont le prophète Mohammed lui-même disait qu'il est l'essentiel de la religion. Je rêve d'un islam visible par sa valeur éthique et spirituelle. Je rêve d'un islam visible pour sa grandeur morale et pour la profondeur de sa spiritualité, et non plus par des vêtements, foulards, longues robes, voile intégrale, etc., qui, comme par hasard, mais évidemment ce n'est pas un hasard, persistent à faire du corps des femmes un corps captif, marqué par la contrainte d'un vêtement obligatoire. Combien de fois faudra-t-il répéter que l'attachement à l'islam peut parfaitement se concilier pour une femme avec l'absence de voile ? Combien de fois encore faudra-t-il dire que la valeur morale et spirituelle d'un individu se voit non pas à ses vêtements, mais à ses actes ? L'habit ne fait pas le moine, le foulard ne fait pas la musulmane, la barbe ne fait pas le musulman. Mais pour le comprendre, encore faut-il disposer d'une véritable culture religieuse, une véritable culture spirituelle qui nous apprend que l'essentiel se passe et se cultive à l'intérieur, dans l'ouverture du cœur, dans l'élévation de l'âme, dans l'éveil de l'esprit. En islam, ce sont les grands sages du soufisme qui l'ont bien compris, eux qui pratiquaient toute leur vie durant la méditation, la concentration intérieure sur le mystère de l'identité de Dieu, et qui extérieurement, de manière visible, ne passaient pas leur temps à des manifestations bruyantes ou spectaculaires de piété, mais se consacrer à faire le bien, humblement, modestement et de façon souvent invisible. Le sage soufi Ibn Arabi, surnommé le Cheikh El Akbar, le plus grand des maîtres spirituels de l'islam, disait au XIIIe siècle, je le cite, « À ton cœur se révèle tout à coup celui qui n'a jamais cessé de résider dans l'incompréhensible mystère, mais c'est toi-même qui étais le voile sur ton œil. » La sagesse est toujours un dévoilement, le dévoilement de l'invisible. Et en même temps, cette sagesse est voilement, voile derrière lequel elle se cache pour protéger les regards de sa trop grande lumière. Mais retenons pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, cette belle image de Ibn Arabi selon laquelle le véritable voile est posé sur le cœur de l'être humain. C'est le voile de l'ignorance qui soudain est arraché au terme d'une vie de méditation lorsqu'enfin l'être humain voit Dieu face à face et dit « Ah, c'était donc ça !» C'est tout pour aujourd'hui. Que la paix soit sur nous tous. À demain !